Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander: quel est le premier de tous les commandements? Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit: fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique, et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit: tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, alors que Jésus vient de clore la bouche aux Sadducéens en leur affirmant la résurrection des morts par une citation de l'Écriture, voici qu'un scribe, intéressé par la réponse de Jésus, sans doute admiratif, s'avance vers lui. Et pour un légaliste, au premier sens du terme, c'est-à-dire un docteur de la loi, la question est importante. Quel est le premier de tous les commandements ? Et en effet, nous nous la posons souvent. Quel est le plus grand des commandements? Quelle est la loi qui éclaire toutes les autres? Dans la loi de Dieu, quel est le centre, la substantifique moelle, le principe constitutionnel? Et nous connaissons tous la réponse de Jésus. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Le premier commandement, c'est « Écoute Israël ». La première des activités commandées, c'est qu'il faut être à l'écoute de Dieu. Pourtant, c'est bien souvent l'aspect le plus compliqué de notre vie. Nous avons été créés libres, nous voulons grandir. Le petit enfant ne dit-il pas « Quand je serai grand, je ferai ceci ou je ferai cela ». Nous voulons tous arriver au stade de l'autonomie, à l'accomplissement de notre nature humaine, qui est de savoir prendre notre vie en main et décider par nous-mêmes. Et pourtant, le premier commandement de Dieu marque notre dépendance. Écoute ton Dieu. Car Dieu ne s'impose pas. La liberté qu'il nous a donnée, il la respecte tellement qu'il ne viendra jamais la violer. Et si moi-même, librement, je ne me mets pas à l'écoute de Dieu, alors je peux passer à côté de la présence de Dieu dans ma vie, à côté de son appel, à côté de ma vocation. Notre premier devoir, c'est donc de vouloir être à l'écoute du Seigneur. Ce que Moïse rappelle au peuple des sauvés dans la première lecture. Israël, tu écouteras. Tu veilleras à mettre en pratique ce qui t'apportera bonheur et fécondité. Et oui, notre Dieu nous appelle au bonheur et à la fécondité. Il compte sur chacun de nous pour porter du fruit, dès ici-bas, si nous sommes à son écoute. Alors, quand je me lève le matin, est-ce que j'offre ma journée au Seigneur? Simplement dire: mon Dieu, cette journée je vous l'offre, montrez-moi quelle est votre volonté. Cela suffirait à changer nos vies. Et si dans la journée, je sais redire, mon Dieu, éclairez-moi, envoyez-moi votre esprit, alors les mille et une décisions que je dois prendre auront une fécondité qui me dépasse. Nous devons donc nous mettre à l'écoute, mais que devons-nous écouter? Deux choses. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Voici le plus grand commandement. Il n'y a qu'un seul Dieu et Seigneur, et il attend notre amour. Autrement dit, toutes nos entreprises pour chercher le bonheur en de multiples choses sont vaines. Nos idéologies, nos possessions matérielles, notre rang social, notre intelligence elle-même, tout cela a sa place, mais ne doit pas se substituer à l'unique Seigneur. Et trop souvent, nous perdons notre temps à courir derrière des peccadilles terrestres qui deviennent les maîtres de nos vies. Ce sont nos idoles, toutes ces préoccupations en lesquelles nous croyons pouvoir trouver le bonheur et pour lesquelles nous dépensons tant d'énergie. Nous y mettons tout notre cœur, nous les cherchons de toutes nos forces, corps et âme. Et pourtant, ce n'est que du temps perdu face à l'essentiel. Et le Christ rajoute, alors que ce ne lui était pas demandé, un deuxième commandement, qui est semblable au premier, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et là encore, c'est un commandement double. « Tu aimeras ton prochain », ça nous l'entendons bien, mais aussi « Tu t'aimeras toi-même à ta juste valeur, qui est celle d'enfant aimé de Dieu. » Car de la manière dont nous aimons les autres. Celui qui ne s'aime pas ne sait pas aimer son prochain. Celui qui s'aime égoïstement, qui se croit l'origine de lui-même, n'aime les autres qu'égoïstement, c'est-à-dire pour son plaisir propre, en ce qu'il se rapporte à lui. Et c'est donc là un appel de Jésus à reconnaître la merveille que nous sommes, cette personne humaine voulue, créée et aimée par Dieu. Si je sais reconnaître ce qu'il y a de divin en moi, je peux retrouver ce qu'il y a de divin dans mon prochain. Et alors, aimant Dieu de toute mon âme, de toute ma force, je peux être dans la vraie charité. En Matthieu, dans le passage parallèle à celui-ci, Jésus conclut ainsi : De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. Et c'est ce que reprendra saint Augustin en disant « Aime et fais ce que tu veux ». Apprends à aimer, alors les priorités de ta vie t'apparaîtront clairement. Mais comment faire pour aimer? Car notre scribe alors complimente Jésus. « Fort bien, maître, tu as dit vrai. » Et l'homme, qui veut sans doute briller devant le maître, se permet de rajouter une petite remarque. Un peu comme lorsqu'à l'école, nous voulions nous aussi que le maître nous complimente devant la classe entière. Jérôme, combien font 3 fois 3? Jérôme répond 9. Et là, Arthur lève le doigt au fond de la classe et dit « Et 3 fois 4, ça fait 12 !» Alors le maître répond « Oui, merci Jérôme, c'est bien. » Et en effet, c'est ce que répondra Jésus. « C'est bien, tu as bien parlé. » Alors le scribe rajoute « Aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, cela vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Ici, le scribe n'invente rien, il replace juste deux versets du psaume 50 qu'il a appris par cœur. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Alors pouvons-nous mettre en parallèle ce cœur brisé et broyé avec l'amour de Dieu et du prochain? Le cœur brisé et broyé, c'est le cœur humble, celui qui n'est pas hautain, qui n'est pas imbu de lui-même. Et Et cette disposition, c'est bien la condition première pour aimer. Celui qui a le cœur hautain se satisfait de lui-même. Il n'est pas à l'écoute. Il ne cherche pas à découvrir la richesse de l'autre. Le cœur hautain ne peut aimer ni Dieu ni son prochain. D'ailleurs, il ne s'aime pas vraiment lui-même, car ce qu'il aime en lui, c'est la toute-puissance qu'il se figure avoir. C'est une image fausse de lui-même. Un peu comme une jeune top modèle qui serait fière de la photo d'elle, qui est parue dans les journaux mais tout à fait retouchée par ordinateur. L'image est belle sans doute, mais elle ne correspond à rien de réel. Seul le cœur humilié, c'est-à-dire conscient de sa faiblesse, accepte de se laisser enseigner, relever par Dieu. Seul le cœur humble accepte cette dépendance à Dieu et au prochain, qui fait que seul je ne suis capable de rien, mais qu'en Dieu je peux tout. Que seul le chrétien est condamné à disparaître, mais, et la Toussaint nous l'a rappelé récemment, c'est en Église tous ensemble que le Christ nous sauve. Alors la connaissance intellectuelle de ces vérités est une étape importante dans notre chemin vers Dieu. Aussi Jésus répond-il avec bienveillance à ce scribe. Tu as bien parlé, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Venant de Jésus, Dieu fait homme, cette remarque fait plaisir à entendre. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. C'est le premier accessit. Et pourtant, il ne faut pas s'en contenter. Certes, ce scribe n'est pas loin du royaume de Dieu. Il en est tout proche, mais il n'y est pas encore. En effet, le royaume de Dieu passe par une porte étroite, et cette porte, c'est Jésus lui-même. Alors, chers frères et sœurs, en ce dimanche où Jésus nous montre une fois encore le chemin du royaume, sachons le suivre, lui qui est la vérité et la vie. Demandons à Dieu de nous garder à l'écoute, afin de laisser agir en nous son esprit. Et sachons fréquemment rejeter nos idoles qui envahissent notre vie. Sachons avoir un cœur contrit et humilié. Et demandons-le comme le prêtre qui s'approche de l'autel. Apprenons chaque jour à aimer notre Seigneur Jésus, et en lui à nous aimer nous-mêmes en vérité, et à aimer nos frères. Car c'est alors que nous ferons grandir le corps du Christ qui est l'Église, et alors que toutes nos actions auront un poids d'éternité. Amen.